Bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité. Le 80e congrès vous manque. Vous avez manqué des conférences. Retour sur les ateliers professions dans le numéro spécial congrès de la RFC de novembre. Le 80e congrès de l'Ordre des experts comptables à Lyon, c'était un sacré événement. Près de 9000 participants quand même. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce qui s'est dit pendant les ateliers professions. L'idée, c'est de décrypter un peu les points clés sur trois thèmes majeurs qui sont en train de redéfinir l'avenir des cabinets. On va parler intelligence artificielle et data, bien sûr, la facture électronique, incontournable, et puis aussi la pérennité des structures.
Exactement. L'objectif, ce n'est pas tant de faire une restitution exhaustive, conférence par conférence. C'est plutôt d'essayer d'extraire l'essentiel, la substance de ces sessions qui étaient très denses. Pour donner une vision claire, disons, des enjeux, mais aussi des pistes d'action concrètes pour les professionnels. C'est une analyse des transformations qui sont en cours.
Parfait. Alors, commençons sans plus attendre par le premier gros morceau. L'intelligence artificielle générative. On en entend parler partout, mais concrètement, pour un cabinet, les ateliers ont justement abordé comment l'implémenter, comment ça s'y marie avec la data, et puis les questions de sécurité aussi.
Oui, c'est un point absolument crucial en ce moment. L'IA générative, et il faut bien voir qu'elle arrive en même temps que la généralisation imminente de la facture électronique, et cette conjonction, elle est, on peut dire, explosive. D'un côté, on va avoir une masse de données normées, disponibles quasiment en temps réel, et de l'autre, une technologie qui est capable de les analyser, de les comprendre en contexte. Ça redéfinit vraiment le rôle de l'expert comptable.
Ça ouvre des perspectives assez incroyables, c'est vrai. Mais on entend aussi beaucoup parler de projets IA qui coûtent cher et qui finalement ne donnent pas grand-chose. Ça peut faire un peu peur, non ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, une étude du MIT qui a été citée pendant les ateliers a un peu jeté un pavé dans la mare. Elle révélait que 95% des projets IA ne généreraient pas de retour sur investissement.
Ah oui, 95%. C'est énorme.
C'est énorme. Ça montre bien que l'enthousiasme, ça ne suffit pas. Se lancer sans méthodologie solide, c'est souvent la garantie de l'échec.
Justement, quelle méthode a été suggérée ? Il me semble qu'Adrien Comelan et Vincent Lacombe avaient une approche assez pragmatique, non ?
Oui, tout à fait. Ils ont proposé une démarche en 5 étapes assez logique. La première, et c'est vraiment fondamental, faire un diagnostic honnête de la maturité numérique du cabinet. Où en est-on réellement sur la gestion électronique des documents, la fameuse GED, sur l'accès aux fichiers des écritures comptables, le FEC, sur les outils collaboratifs? Sans ces fondations numériques solides, l'IA, elle ne pourra pas faire de miracle.
D'accord, donc on commence par un état des lieux interne. Et la suite?
Ensuite, étape 2, définir une stratégie IA. Mais attention, une stratégie claire et ciblée. Le but, ce n'est pas de faire de l'IA pour faire de l'IA. Il faut se demander... quels problèmes concrets on veut résoudre ? Améliorer la production, développer de nouvelles missions, libérer du temps sur certaines tâches. Il faut identifier des cas d'usage précis.
Logique.
Troisième point, constituer les bonnes équipes. Souvent, le binôme qui fonctionne bien, c'est un profil plutôt technophile, curieux des nouvelles technologies, associé à un senior expérimenté qui connaît parfaitement le métier et ses enjeux.
L'un apporte le comment, l'autre le pourquoi.
C'est un peu ça, oui. Et ensuite seulement, quatrième étape, le choix des bons outils. On voit passer beaucoup de noms, ChatGPT, Mistral AI, et puis les outils des éditeurs métiers.
Oui, comment s'y retrouver ?
Alors, les IA généralistes peuvent être utiles pour des tâches, disons, périphériques. Rédiger un premier jet d'email, résumer un document. Mais pour le cœur de métier comptable, la fiabilité de l'information est critique. Donc, la recommandation forte, c'est de privilégier les IA spécialisées, souvent celles intégrées par les éditeurs de logiciels métiers, car elles s'appuient sur des bases de connaissances contrôlées et spécifiques à la profession.
D'accord. Et la dernière étape ?
La cinquième étape, et elle est essentielle, accompagner le changement. Ça passe par la formation des équipes, bien sûr, mais aussi par beaucoup de communication pour démystifier l'IA. Il faut aussi mettre en place une charte interne pour encadrer les usages, rassurer. L'IA doit être vue comme un copilote, un assistant, pas comme un remplaçant qui menace les emplois.
C'est clair. Une approche structurée, donc. Mais vous parliez des risques tout à l'heure. La confidentialité des données clients, c'est sans doute le premier qui vient à l'esprit.
Absolument. C'est un point de vigilance majeur qui a été souligné, notamment par Alain Bensoussan et Frédéric Damaisin, La confidentialité, c'est non négociable. Utiliser des outils IA gratuits, par exemple, ça peut vouloir dire que les données qu'on leur fournit servent à entraîner les modèles. C'est inacceptable pour des données clients.
Bien sûr.
Donc, il faut absolument privilégier des solutions sécurisées, soit des clouds privés, soit des services cloud, mais avec des garanties contractuelles très fortes sur la localisation des données, leur non-réutilisation, et puis il y a la conformité au RGPD, qui est un vrai casse-tête avec l'IA.
J'imagine. Et au-delà de la confidentialité, il y a la fiabilité même. Des réponses de l'IA, non ? Les fameuses hallucinations.
Exactement. C'est un autre risque majeur. La cybersécurité d'abord. L'IA peut amplifier les menaces, créer des attaques de phishing plus sophistiquées, par exemple. Mais elle peut aussi aider à les détecter. C'est le double tranchant. Et puis, oui, il y a le risque des hallucinations. Ces réponses qui ont l'air très plausibles, mais qui sont complètement fausses. Une étude SEMrush assez frappante montrait que 40% des réponses de certaines IA provenaient de sources comme Reddit.
Ah oui, quand même. Pas vraiment une source fiable pour du conseil compable.
Disons que ça invite à la prudence. La vérification humaine reste absolument indispensable. Et il y a un risque plus subtil, pointé par une autre étude du MIT, la dette cognitive.
La dette cognitive, c'est-à-dire ?
C'est la tendance à faire une confiance excessive à l'IA, au point de perdre son propre jugement critique, de ne plus oser remettre en question ce que propose la machine. Le jugement professionnel de l'expert, ça reste la clé de voûte.
C'est un rappel essentiel. L'humain doit rester maître à bord. Mais alors, si on arrive à maîtriser ces risques, comment est-ce que l'IA, combinée aux données, notamment celles qui vont arriver avec la facture électronique, peut vraiment créer de la valeur ? Sana Moussaïd et Jean-Laurent Heim-Lenard ont exploré ça.
Oui, et c'est là que ça devient passionnant. La facture électronique, ça va être une mine d'or de données structurées. La qualité de ces données, c'est le socle de tout. Ils ont présenté un cas pratique très parlant sur la gestion de la location meublée non professionnelle, la LNP. L'idée, c'est de partir du FEC, le fichier des écritures comptables du client. Première étape, cruciale pour la confidentialité, l'anonymiser en local, par exemple avec une macro que l'IA peut aider à générer.
D'accord.
Ensuite, l'IA peut analyser ce fichier anonymisé pour extraire automatiquement toute une série d'indicateurs clés, les fameux KPI, chiffre d'affaires par bien, charges, rentabilité, trésorerie. Elle peut même aller plus loin en comparant ces chiffres avec des données sectorielles ou des moyennes, pour donner au client des points de repère sur sa performance.
Et la restitution au client ?
L'IA peut aussi aider à structurer une restitution claire, visuelle, pédagogique pour le client. Des tableaux de bord dynamiques, par exemple.
Donc, si je comprends bien, l'IA automatise toute l'analyse et fournit des benchmarks, mais c'est toujours l'expert qui interprète, qui donne du sens et qui conseille le client.
C'est précisément ça. L'IA fait le travail préparatoire, elle mâche les données, elle dégage des tendances, elle identifie des anomalies éventuelles. Mais l'interprétation fine, le conseil personnalisé, la vision stratégique, ça reste le cœur de la valeur ajoutée de l'expert comptable. Comme l'ont dit joliment les intervenants, les données des cabinets ressemblent encore à une belle au bois dormant. L'intelligence artificielle peut être le baiser du prince qui en révélera le plein de potentiel.
Jolie métaphore. Et ça nous amène tout naturellement au deuxième grand thème, la facture électronique. Justement, cette belle au bois dormant des données va être réveillée en masse. L'échéance approche à grands pas et ce n'est pas qu'une simple contrainte technique, on l'a compris.
Ah non, loin de là. C'est une refonte vraiment profonde des processus de facturation, d'achat, de paiement pour toutes les entreprises. Et donc, par ricochet, pour les cabinets qui les accompagnent. La première chose à bien maîtriser, c'est le nouvel écosystème qui se met en place. Il y a trois acteurs principaux.
Oui.
Il y a d'abord le portail public de facturation, le PPF. C'est la plateforme de l'État, le hub central qui va collecter les données de facturation pour l'administration fiscale et assurer un socle minimal d'échange. Ensuite, il y a les plateformes agréées, les PA. On les appelait avant les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont des opérateurs privés, certifiés par l'État, qui pourront émettre, recevoir et transmettre les factures et les données associées directement entre entreprises et vers le PPF. Et enfin, il y a les solutions compatibles, les SC. Avant, on parlait d'OD, opérateurs de dématérialisation. Ce sont des acteurs techniques qui proposent des services autour de la facture électronique, mais qui ne sont pas agréés pour la transmission directe au PPF. Ils passeront souvent par une PA ou le PPF.
D'accord. Et le choix entre ces différentes options, notamment entre une PA et une SC, ça a l'air d'être une décision assez stratégique pour le cabinet et pour ses clients.
C'est absolument fondamental. Ce choix va engager le cabinet et ses clients sur le long terme. Il va conditionner les flux, les processus. Isabelle Martine-Roche, Dominique Perrier, Stéphane Reynaud et Alexandre Viau ont vraiment insisté là-dessus. Ils ont souligné la nécessité d'une approche méthodique, rigoureuse, avant de choisir un outil ou un partenaire. Il faut commencer par cartographier très précisément les choses.
Cartographier quoi ? Par exemple ?
Les flux de factures, entrants et sortants, les outils qui sont déjà en place chez le client et au cabinet, les profils des clients, leur taille, leur secteur d'activité, leur équipement informatique, leur maturité numérique. Il faut aussi lister les exigences spécifiques en matière de sécurité, d'archivage à valeur probante, d'interconnexion avec le logiciel comptable, de gestion des paiements, etc. C'est seulement avec ce cahier des charges détaillé qu'on peut évaluer sérieusement les offres et choisir là où les bonnes solutions.
Très clair. Une fois qu'on a cette stratégie et qu'on a choisi ces outils, comment on passe concrètement à l'action ? C'est souvent là que ça se complique, le déploiement. Gaël Mourad et David Ladame ont parlé de cet aspect opérationnel.
Oui, et ils ont bien insisté sur le fait qu'il faut traiter la mise en œuvre de la facture électronique comme un véritable projet d'entreprise, tant en interne, pour le cabinet lui-même, que pour l'accompagnement des clients. En interne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nommer un chef de projet dédié qui a du temps et des moyens pour ça. Pas juste une tâche en plus pour un collaborateur débordé. Ça veut dire constituer une équipe projet pluridisciplinaire. Des collaborateurs, des chefs de mission, l'informatique, peut-être même l'accueil ou le secrétariat, allouer un budget spécifique et définir des indicateurs clairs, des KPI, pour suivre l'avancement du déploiement. D'ailleurs, le Conseil national de l'ordre, le CNOIC, met à disposition pas mal d'outils pour aider les cabinets. Des grilles Excel pour faire ses cartographies, clients, fournisseurs, flux, outils, compétences, un outil d'autodiagnostic pour évaluer sa propre préparation et le guide des solutions numériques, le GSN, qui aide à y voir plus clair dans les offres du marché.
Et côté client, j'imagine qu'on ne peut pas accompagner de la même manière une petite TPE artisanale et une PME industrielle avec un ERP.
Exactement. L'approche doit être différenciée. Isabelle Courbière, Nicolas Boll et John Levy ont bien montré l'importance de segmenter sa clientèle. Il faut identifier la maturité numérique de chaque client, son secteur, ses contraintes, et ensuite adapter la communication et l'accompagnement. Organiser des webinaires d'information générale, oui, mais aussi envoyer des communications personnalisées, utiliser les fiches pratiques très bien faites par l'ordre.
Et pour les plus petites entreprises ?
Pour les TPE, qui sont souvent moins structurés, moins équipés et qui ont moins de ressources internes, un accompagnement très rapproché sera souvent nécessaire. Parfois, le cabinet devra même proposer des offres de type full service, où il prend en charge une grande partie du processus pour le client. Récupération des factures, saisie, transmission.
D'accord. Et à l'inverse, pour les clients plus structurés, les PME avec des ERP ou les entreprises d'e-commerce qui gèrent de gros volumes de factures.
Pour ces clients-là, la facture électronique, ce n'est pas juste un sujet comptable ou fiscal. C'est un vrai projet business qui va impacter leur processus interne, leur gestion de trésorerie, leur système d'information. L'accompagnement de l'expert comptable doit donc être à la hauteur de ces enjeux. La méthodologie qui a été suggérée en 4 ateliers me semble très pertinente pour ces PME.
4 ateliers ?
Oui. D'abord, cartographier avec eux leurs flux et leurs outils existants. Ensuite, analyser leur cas d'usage spécifique, achat, vente, note de frais. 3e étape, vérifier qu'ils ont bien toutes les données obligatoires requises dans leur système actuel. Et enfin, préparer les échanges avec leur intégrateur ou leur éditeur de logiciels pour assurer une transition fluide.
Au final, cette réforme de la facture électronique, même si elle demande un gros effort d'adaptation au début, elle semble vraiment repositionner l'expert comptable. Il devient encore plus central dans les flux d'informations de ses clients.
C'est exactement ça. C'est une occasion unique de passer du rôle de celui qui enregistre l'information a posteriori à celui qui est au cœur des flux, qui aide à les organiser, à les sécuriser et surtout à les valoriser. En maîtrisant ces données qui arriveront plus vite et de manière plus structurée, le cabinet peut développer toute une gamme de nouvelles missions de conseil à très forte valeur ajoutée.
Comme quoi, par exemple ?
Processus de facturation et de paiement, mettre en place un pilotage financier beaucoup plus réactif, quasiment en temps réel grâce à la fraîcheur des données, faire de l'analyse prédictive sur la trésorerie, sur les ventes. On sort vraiment de la simple conformité pour entrer dans le conseil stratégique basé sur la donnée.
Une vraie transformation, donc. Et ça nous amène au 3e grand bloc abordé lors de ces ateliers Heroes, la pérennité même des cabinets. Au-delà de la technologie, il y a des enjeux plus structurels. La durabilité, la RSE, le capital humain, les stratégies pour l'avenir. Commençons peut-être par la RSE, la durabilité. Est-ce que c'est juste une tendance, un sujet à la mode ou un vrai levier pour les cabinets ?
Alors, d'après ce qu'ont présenté Caroline Véran et Carole Cherrier, ce n'est clairement plus une option ou un sujet à la mode. C'est devenu un levier stratégique essentiel pour la pérennité. D'ailleurs, il faut rappeler que la loi Climat et Résilience, via son article 167, positionne même explicitement l'expert comptable comme un acteur clé pour accompagner les entreprises sur ces enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les fameux critères ESG.
D'accord, il y a un cadre légal qui pousse dans ce sens.
Oui, et au-delà de ça, s'engager dans une démarche RSE, pour le cabinet lui-même, ça a des impacts positifs à trois niveaux de performance qui sont interconnectés.
Quels sont ces trois niveaux ?
D'abord, la performance sociale. On est dans un contexte de tension sur le recrutement, de guerre des talents. Une démarche RSE sincère, axée sur la qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT, la formation, l'équité et le dialogue social, ça améliore clairement l'attractivité du cabinet et la fidélisation des équipes.
Logique, en effet. Le deuxième niveau ?
La performance économique. La RSE, ce n'est pas qu'une dépense, c'est aussi une source de nouvelles missions. Réaliser les diagnostics RSE pour les clients, les accompagner sur le reporting de durabilité qui devient obligatoire pour de plus en plus d'entreprises avec la directive européenne CSRD, faire des bilans carbone, conseiller sur les stratégies de transition écologique ou même réaliser des missions volontaires sur l'information durabilité pour les PME, les missions dites VSME. Il y a un vrai marché qui s'ouvre.
Et le troisième niveau ?
C'est la performance sociétale. En adoptant lui-même des pratiques responsables, que ce soit sur l'éthique, le numérique responsable, l'ancrage territorial, et en aidant ses clients à le faire, le cabinet renforce la confiance, son image, sa réputation. C'est un cercle vertueux.
Et concrètement, comment un cabinet peut-il s'engager dans une démarche RSE ? Ça peut sembler un peu intimidant au départ ?
Oui, ça peut. Mais une démarche structurée a été proposée. En gros, quatre étapes clés. D'abord, engager la direction et l'ensemble des équipes dans le projet. Ensuite, diagnostiquer. Identifier les enjeux RSE qui sont les plus importants, les plus matériels pour le cabinet et ses parties prenantes. On utilise souvent une matrice de matérialité pour ça. Troisième étape, planifier des actions concrètes avec des objectifs clairs, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Les fameux objectifs SMART. Et enfin, dernière étape, évaluer régulièrement les progrès réalisés et communiquer de manière transparente sur ses actions et ses résultats, en interne comme en externe.
Et il existe des outils pour aider ?
Oui, il existe des outils, notamment ceux proposés par le CNESC, comme le portail Cap Durabilité, ou encore des dispositifs comme Atout RSE-ECC. L'important, c'est de commencer, même modestement, et d'inscrire ça dans la durée.
C'est intéressant de voir la RSE sous cet angle de moteur économique et social. Et ça fait le lien avec l'autre grand pilier de la pérennité, le capital humain. Les intervenants sur ce sujet, Florence Bénichou, Florence Sobat, Caroline Collet, Jean-Luc Bessonnet, ont parlé de molécules clés, mais le constat sur l'engagement des salariés semblait assez brutal.
Oui, le chiffre qui a été cité et issu d'une étude Gallup est assez saisissant. Seulement 8% des salariés français se sentiraient réellement engagés dans leur travail.
Seulement 8%.
C'est très peu. Le diagnostic qui a été posé lors de l'atelier, c'est que le problème principal dont beaucoup d'organisations, et les cabinets ne font pas forcément exception, ce n'est pas tant la productivité que ce qu'ils ont appelé une fissure du lien humain. Cette fissure serait souvent liée à un style de management hérité du passé, très pyramidal, très command and control, qui ne correspond tout simplement plus aux attentes actuelles des collaborateurs.
Et quelles sont ces attentes aujourd'hui ? On entend beaucoup parler de la quête de sens au travail.
Justement, un point intéressant souligné par les intervenants, c'est que les attentes des talents, et notamment des plus jeunes générations, sont souvent plus pragmatiques qu'on ne le croit. Le salaire reste le critère numéro un, c'est la base. Mais juste derrière arrive très vite l'ambiance de travail, la qualité des relations avec les collègues et le manager, et la flexibilité, le télétravail, les horaires, pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La quête de sens abstraite vient souvent après ces éléments très concrets.
D'accord. Et l'IA, dont on parlait au début, comment elle impacte ces aspects humains ?
Elle les impacte directement. l'IA va automatiser de plus en plus de tâches répétitives. Ce qui veut dire que les compétences qui vont compter demain, ce sont les compétences relationnelles, l'analyse, le conseil, la capacité à accompagner le client, à comprendre ses besoins. Des compétences éminemment humaines.
Ce qui change complètement le rôle du manager, j'imagine.
Fondamentalement. Le manager ne peut plus être seulement celui qui distribue le travail et qui contrôle. Il doit devenir un facilitateur de liens, un coach qui aide ses équipes à développer ses nouvelles compétences. L'atelier a mis en avant le concept des 4 C pour guider cette transformation managériale.
Les 4 C ?
Oui. Clarté dans la vision, les objectifs, les rôles. Communication ouverte, transparente, régulière. Coopération encouragée entre les membres de l'équipe et entre les équipes. Et développement continu des compétences en lien avec les évolutions du métier. Et dans ce contexte, la marque employeur devient cruciale. Mais attention, pas une marque employeur de façade. Elle doit être authentique, refléter la réalité vécue au quotidien par les collaborateurs. Sinon, c'est contre-productif.
Et il y a aussi le défi démographique, le papy boom.
Oui, absolument. Face au déséquilibre démographique dans la profession, il faut aussi repenser les profils qu'on recrute. Être peut-être plus ouvert à des parcours différents, moins linéaires.
Tout ça, l'IA, la data, la facture électronique qui transforme les processus, la RSE qui devient stratégique, les nouvelles attentes des collaborateurs, ça nous amène à la conclusion logique. Il faut repenser l'ADN stratégique même des cabinets. C'est le point abordé par Éric Corret et Denis Geneste, c'est ça ?
Exactement. Ils ont mis en lumière le fait que les cabinets sont confrontés à une sorte de triple rupture. Une rupture technologique, avec l'IA et la data qui changent la nature du travail. Une rupture réglementaire, avec la facture électronique qui redéfinit les flux. Et une rupture de marché.
Une rupture de marché.
Oui, dans le sens où on voit une convergence de plus en plus forte entre les métiers traditionnels de l'expertise comptable, le conseil en gestion, la technologie, les éditeurs de logiciels, les plateformes, et même les services financiers. Les frontières deviennent plus floues. Et en même temps, on observe un phénomène de concentration du marché. Dans ce contexte très mouvant, rester immobile, c'est prendre le risque de régresser, voire de disparaître. Il faut donc adapter son modèle économique et opérationnel.
S'adapter, mais comment ? Quelles sont les pistes ?
D'abord, il faut bien comprendre où se situe le cabinet dans les différentes aires de maturité technologique. Est-on encore au stade du numérique, on scanne les pièces ? Est-on passé au digital, les processus sont dématérialisés ? Exploite-t-on vraiment la data ? Se prépare-t-on à l'IA générative ? Il faut avancer sur cette échelle. Ensuite, et c'est sans doute le plus difficile, il faut repenser activement ses sources de revenus. La production comptable traditionnelle, même si elle reste nécessaire, va voir sa valeur perçue diminuer avec l'automatisation. Il faut donc accélérer la transition vers le conseil et les services à plus forte valeur ajoutée. La clé, c'est la diversification.
Diversification horizontale, verticale. Vous pouvez préciser ?
Oui, les deux sont pertinentes. La diversification horizontale, c'est proposer une palette de services plus large aux clients existants, en s'appuyant sur la confiance déjà établie. Intégrer du conseil en ressources humaines, de la gestion de patrimoine, de l'accompagnement stratégique, du conseil RSE comme on l'a vu, une aide à la recherche de financement. Les possibilités sont nombreuses. Et la diversification verticale, c'est intervenir à des étapes différentes de la chaîne de valeur du client. Plus en amont, aide à la facturation, gestion du recouvrement, optimisation des processus d'achat ou de paiement. Et plus en aval, mise en place de tableaux de bord de pilotage avancés, reporting de gestion, voire proposer des services de DAF externalisés, c'est-à-dire de directeurs administratifs et financiers à temps partagé pour les PME.
Ça demande une sacrée transformation interne tout ça. Ce n'est pas juste ajouter une ligne sur une plaquette.
Non, c'est certain. Ça ne s'improvise pas, ça demande d'abord une stratégie claire qui part d'un état des lieux honnête, des forces et faiblesses du cabinet, qui définit une vision partagée de la direction à prendre et qui se traduit en un plan d'action concret avec des étapes, des moyens, des responsabilités. Ça demande aussi souvent de professionnaliser des fonctions qui étaient parfois un peu le parent pauvre dans les cabinets traditionnels, comme le marketing et la vente de ces nouvelles offres de conseil. Il faut savoir les packager, les pricer, les vendre et bien sûr, ça demande un investissement assumé dans les outils technologiques, oui, mais surtout dans les compétences des équipes. Il faut former, accompagner, faire monter en gamme les collaborateurs pour qu'ils puissent délivrer ces nouvelles missions.
Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu toute cette richesse qui est ressortie des ateliers du congrès, ce qu'on voit très bien, c'est que tous ces éléments, l'IA, la data, la facture électronique, les exigences de durabilité, les nouvelles attentes humaines, ne sont pas des sujets séparés, qui avancent chacun dans leur coin. Tout est interconnecté, en fait.
C'est exactement la grande conclusion qui émerge. ces différentes forces convergent et en fait elles s'amplifient mutuellement. Elles créent un environnement nouveau, complexe, exigeant, dans lequel les cabinets sont vraiment contraints de se réinventer en profondeur. Il ne s'agit plus seulement de faire quelques ajustements à la marge. Il s'agit de repenser sa proposition de valeur fondamentale, son modèle opérationnel, son management, sa culture d'entreprise. C'est une introspection profonde et une adaptation stratégique rapide qui sont nécessaires aujourd'hui.
Une mutation profonde, comme vous le disiez au tout début de notre échange.
Profonde, oui. Sans doute déstabilisante pour beaucoup, il ne faut pas se le cacher. Mais, et c'est l'autre message important, les opportunités sont aussi immenses pour les cabinets qui sauront naviguer cette transformation avec lucidité, avec méthode et avec une vision claire de la valeur unique qu'ils peuvent continuer à apporter à leurs clients dans ce nouveau paysage économique et technologique.
Voilà qui donne effectivement beaucoup matière à réfléchir. Et pour prolonger un peu cette réflexion au-delà de notre échange, peut-être une dernière question ouverte pour celles et ceux qui nous écoutent. Face à tous ces changements qui s'entremêlent, quelle serait la transformation stratégique absolument prioritaire que leur cabinet devrait engager dès maintenant pour non seulement s'adapter, mais surtout pour prospérer durablement dans cette nouvelle ère qui s'ouvre, façonnée par la donnée, par l'IA et par l'évolution des attentes. La Revue Française de Comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrancaisedecomptabilité.fr.